Alors, donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de se pencher sur la politique du film Black Panther, et non pas tant sur la manière dont le film apporte des réponses, hein, un contenu politique, mais plutôt sur la manière dont il pose des questions. Et ce que j'espère faire, c'est montrer à travers l'analyse de ce film, d'illustrer une proposition plus large, qui serait de repenser l'approche de la politique du cinéma en termes de pratique, plutôt que de discours. Donc ma présentation aujourd'hui, elle va se faire en trois temps. Je vais commencer par un cadrage théorique de ma recherche qui sera rapide voilà, bon, assez succinct. Ensuite, je vais présenter les enjeux politiques du film Black Panther. Et ensuite, on va rentrer dans l'analyse proprement dite qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, je vais essayer de réduire les deux premiers points pour avoir le temps de rentrer dans le détail du film. Donc, lorsque j'annonce dans le texte de présentation de ce séminaire que cette séance inaugure un projet de recherche qui éclaire la manière dont le cinéma populaire états-unien fait œuvre démocratique, je place mon travail dans le sillage des analyses du cinéma dans le champ des études culturelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très rapidement l'approche du cinéma par les études culturelles, hein, c'est d'abord une approche qui aborde la culture dans une définition très large, allant de Mozart à Barbie, hein, c'est-à-dire une conception large et démocratique de la culture, dans laquelle le cinéma est un objet parmi d'autres. Fortement influencée par Gramsci, cette approche considère la culture, et donc par extension tout objet culturel, hein, tout film particulier, comme un champ de lutte politique entre un pouvoir hégémonique et des forces de subversion. Cette lutte ne reflète pas seulement une lutte dans la société. Non, pardon, la culture ne reflète pas seulement une lutte dans la société, mais elle est essentielle à la production et à la transformation des rapports sociaux de pouvoir. Donc, il y a également un rôle politique de la culture. Alors que certaines théories du cinéma, notamment inspirées d'Althusser, par exemple, vont mettre l'accent sur le pouvoir des productrices, la perspective de la production et la manipulation des spectatrices. Hein. Les études culturelles, au contraire, vont insister plutôt sur la place et le pouvoir des spectatrices, c'est-à-dire une perspective de la réception, dans les processus de sélection des objets culturels et de construction de leur sens. Donc une telle approche est à la fois réjouissante et risquée. Réjouissante parce qu'elle redonne du pouvoir aux spectatrices face à l'industrie culturelle, et parce qu'elle respecte la complexité des œuvres de la culture populaire, risquée parce qu'elle pourrait faire oublier le rapport de pouvoir profondément inégalitaire entre spectatrices et productrices. Mon intention ici n'est donc pas de célébrer le cinéma populaire états-unien comme un lieu privilégié de production de la démocratie, ni même d'affirmer que le travail démocratique qu'il accomplit est son impact politique premier. Il me semble cependant important, pour des raisons épistémologiques autant que politiques, de souligner que si les produits hollywoodiens reproduisent le patriarcat, la suprématie blanche, l'eurocentrisme, le néolibéralisme, ils travaillent tout autant à interroger et parfois subvertir ces idéologies dominantes. Il s'agit ici de voir ce qui en fait des œuvres artistiques autant que des produits de la culture de masse et ce qui fait de leur public des spectatrices émancipées, exerçant leur pouvoir critique, plutôt que des consommatrices soumises et abêties. Alors, des travaux existent déjà dans différentes disciplines. Pardon, j'ai un cran de retard, donc je suis ici. Donc, des travaux existent déjà dans certaines disciplines, hein, et vous avez ici quelques exemples pertinents pour mon projet et pour cette intervention. Et ces travaux suggèrent, sans le dire explicitement, que la politique du cinéma ne doit pas seulement être envisagée comme la production d'un discours, d'un contenu politique que les films nous transmettent, mais qu'elle peut être envisagée comme la mise en œuvre d'une pratique. Comprendre la politique du cinéma comme la mise en œuvre d'une pratique, c'est se concentrer sur ces aspects du cinéma qui mobilisent et encouragent l'activité critique et la pratique politique des spectatrices. Je m'inspire ici de la théorie de Jacques Rancière sur la spectatrice émancipée, qui construit l'expérience spectatorielle comme une pratique politique où la spectatrice possède a priori et exerce activement un pouvoir de co-construction du sens des objets culturels. Alors, plus concrètement, voilà quelques exemples de la manière dont les films encouragent la pratique politique des spectatrices. Complexifier le contenu et donc le processus de signification. Favoriser la réflexivité et donc une posture spectatorielle de distanciation critique. S'inscrire dans une histoire du cinéma et des représentations. Ou bien encore articuler les genres filmiques de manière signifiante, on va en parler un peu aujourd'hui. Interroger les frontières entre le cinéma et d'autres médias. Ah, pardon, donc là, il y avait normalement, c'était l'intermédialité et la transmédialité. Un petit bug dans le PowerPoint. Problématiser également la narration. Hein, c'est-à-dire avec des structures narratives complexes, avec par exemple une narration non fiable, avec une mise en tension du récit et de la narration. Récit, donc ce qui est raconté, la narration, la manière dont c'est mis en forme, dont c'est visualisé à l'écran. Voilà, donc problématiser la narration, problématiser l'image, par exemple en mettant en tension des éléments profilmiques avec des éléments numériques. Hein, ça aussi, on va en parler aujourd'hui. Ou encore problématiser la représentation, c'est-à-dire complexifier les représentations politiques hein, de genre, de race, de classe, de sexualité, etc. Ou bien dénaturaliser aussi ces identités politiques. Donc tout cela, ce sont des pistes qui me semblent intéressantes de creuser pour justement révéler comment est-ce que le cinéma invite à pratiquer une forme de politique à travers l'activité spectatorielle plutôt que qu'il ne donne donc un contenu ou voilà, des discours fixes et spécifiques. Donc maintenant que j'ai dit ça, très rapidement, on va plus concrètement donc, voir comment ça se joue dans le cas du film Black Panther. Alors sans entrer dans le détail du discours politique de Black Panther, puisque ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui, il me semble important, avant d'entrer dans l'analyse, juste de rappeler la mesure des différents terrains politiques sur lesquels le film se positionne et sur lesquels il a été reçu. Alors le film Black Panther, c'est donc le 18e film du Marvel Cinematic Universe, hein, donc le MCU, démarré 10 ans plus tôt avec la sortie d'Iron Man. Donc c'est un film qui est un peu particulier au sein du MCU puisque c'est la première production à avoir affiché des ambitions explicitement politiques hein, dans sa promotion. C'est le premier film Marvel, donc qui s'est présenté comme le premier film Marvel avec un super-héros noir. Et Black Panther a donc été également attendu par le public sur ce terrain, sur le terrain en particulier de la politique des représentations. Et ici, Black Panther ne déçoit pas avec un nombre d'artistes et d'actrices noires, qui est donc près de 90% du casting, qui est inédit pour un film commercialisé grand public. Et un récit qui renverse la hiérarchie raciale des productions hollywoodiennes, hein, où on voit l'Afrique présentée comme puissante et technologiquement supérieure, et les deux seuls personnages blancs qui ont des rôles de faire-valoir. La sortie du film a donc été un véritable événement, préparé par le studio, mais aussi approprié par le public, notamment avec l'émergence de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux débattant des implications politiques du film. Black Panther est devenu le film qui a suscité le plus grand nombre de posts sur Twitter après seulement un mois d'exploitation. Et cette conversation continue encore aujourd'hui. On a vu notamment apparaître des hashtags tels que « What Black Panther means to me » de la part de spectatrices en majorité racisées qui exprimaient ce que le film avait représenté pour elles, souvent sur le mode du soulagement ou de la fierté. Le contexte de la sortie du film en février 2018 a également contribué à l'événement médiatique avec une présidence Trump incitant à la haine raciale, flirtant avec les suprémacistes blancs et parlant en janvier 2018 de « shithole countries » à propos donc de Haïti et des pays africains. Pour Jamel Smith, donc journaliste au Time, l'existence même d'un film comme Black Panther apparaissait comme un acte de résistance politique. Alors si le film a généré une telle conversation à sa sortie, et continue donc encore une fois de l'être trois ans après, hein, c'est notamment parce que Black Panther soulève un nombre impressionnant de questions politiques concernant les héritages du colonialisme, ou les contours d'une identité noire dans le monde contemporain. Y sont évoqués, entre autres, l'esclavage, l'oppression raciale et les discriminations contemporaines, le néocolonialisme ou encore la diaspora africaine dans ce qui l'unit, la racisation ou la désunie, notamment les tensions entre Africains et Africains-Américains. Outre les thèmes abordés dans Black Panther, le film est également remarquable dans sa forme et dans ses choix de production. Le casting reflète une certaine diversité de la diaspora africaine. Les actrices jouant les Wakandais s'expriment dans le film dans divers accents africains. Les dialogues incluent des répliques en isiXhosa, une des langues officielles d'Afrique du Sud. Les décors de Anna Bichler et les costumes de Ruth Carter puisent leur inspiration dans des dizaines de cultures africaines. Et la musique de Ludwig Göransson mêle une orchestration Marvel traditionnelle avec le travail et les instruments d'artistes sénégalais et sud-africains, ce qui produit une bande son, une bande originale complètement inédite dans les productions Marvel. Pour ces différentes raisons thématiques et formelles, hein, certaines voix sont allées jusqu'à voir dans le film des liens forts avec le Third Cinema, hein, une forme de cinéma politique provenant des Suds, en opposition à un cinéma mainstream incarné essentiellement par Hollywood. Si la réception du film a été largement positive auprès de la critique comme du public, des voix se sont aussi élevées pour soulever des aspects politiques plus problématiques. Hein. On a accusé le film d'être un récit néocolonialiste, notamment à cause d'éléments narratifs et de choix de représentation qui reproduisent l'image coloniale d'une Afrique tribale, primitive et homogène culturellement et racialement. D'autres voix ont également soulevé la dimension quasi trumpiste d'un Wakanda, donc le pays fictif du film, antidémocratique, patriarcal, protectionniste, isolationniste et ethno-nationaliste, hein, au point qu'un hashtag Black Panther is outright ait gagné une certaine visibilité sur les réseaux sociaux. Et d'autres voix encore ont condamné la stratégie de Disney pour coopter le mouvement antiraciste, exploiter le pouvoir d'achat d'un public plus pauvre et consolider une idéologie néolibérale. Au vu donc des lectures très diverses qui ont pu être faites de Black Panther, il apparaît, paraît difficile de s'accorder sur un discours politique que le film produit. Si on adoptait une approche science politique du cinéma, on pourrait dire que le message central du film, c'est que la violence révolutionnaire se transforme nécessairement en oppression et que Martin Luther King vaut mieux que Malcolm X, globalement. Mais justement, on va voir comment, par l'articulation des genres filmiques et par les usages du numérique, le film résiste à sa propre conclusion. Dans l'analyse qui suit, je vais me concentrer sur la manière dont Black Panther mobilise une pratique politique spectatorielle plutôt qu'il ne délivre un discours. Et la stratégie centrale du film pour y arriver, il me semble, c'est de créer une tension entre le récit, donc ce qui est raconté, et la narration, la manière dont le récit est raconté, mis en forme, visualisé. Plus précisément, le film crée une tension entre un récit dont les coordonnées morales se brouillent à mesure que le film progresse, et une narration qui, au contraire, maintient les deux espaces du paradis africain et du ghetto états-unien dans des rapports radicalement distincts au réel. Voilà, donc il y a une complexification d'une part, et puis il y a finalement une opposition assez tranchée au niveau, notamment esthétique, avec les usages du numérique, on va le voir. Alors, avant de rentrer dans l'analyse, peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas vu le film, et donc je vais juste rappeler deux, trois choses concernant donc le récit. Pour comprendre Black Panther, il faut connaître donc le vibranium, qui est un métal tombé sur Terre par météorite et doté de propriétés extraordinaires. Il faut comprendre également donc le Wakanda, qui est un pays africain fictif, seul possesseur du vibranium, jamais colonisé, et qui est la nation la plus puissante du monde, mais qui vit cachée du reste du monde, donc qui cache sa puissance au reste du monde. T'Challa, prince du Wakanda, qui devient roi à la mort de son père T'Chaka, et qui obtient les pouvoirs de la Panthère Noire, guerrier protecteur du pays Wakanda. Eric Stevens, alias Killmonger, cousin donc de T'Challa, c'est une histoire de famille, qui a grandi aux États-Unis dans une banlieue pauvre et qui veut prendre le trône du Wakanda pour partager ses ressources avec la diaspora africaine et organiser un soulèvement mondial des opprimés. Et enfin, pour préparer notre analyse, N'Jobu, également frère de T'Chaka, donc frère du roi T'Chaka, oncle du prince T'Challa, et on l'apprendra au milieu du film, donc père de Eric Stevens Killmonger, envoyé en mission aux États-Unis et traître au Wakanda. Voilà, donc on va maintenant pouvoir entrer dans l'analyse de la praxis politique dans Black Panther en commençant par le visionnage de la séquence introductive du film. C'est une séquence, c'est la plus longue séquence qu'on va regarder, elle dure 6 minutes 30 et on va donc ensuite en faire une analyse filée pendant le reste donc de ma présentation. Donc, comme je le disais en introduction, si vous n'avez pas augmenté la luminosité de vos écrans, faites-le maintenant. La séquence est un petit peu sombre. Je vais couper mon micro et je vais la lancer.
Baba?
Yes, my son.
Tell me a story.
Which one?
The story of home.
Millions of years ago, a meteorite made of vibranium, the strongest substance in the universe, struck the continent of Africa, affecting the plant life around it. And when the time of men came, five tribes settled on it and called it Wakanda. Tribes lived in constant war with each other until a warrior shaman received a vision from the panther goddess Bast, who led him to the heart-shaped herb, a plant that granted him superhuman strength, speed, and instincts. The warrior became king and the first black panther, the protector of Wakanda. Four tribes agreed to live under the king's rule, but the Jabari tribe isolated themselves in the mountains. The Wakandans used vibranium to develop technology more advanced than any other nation. But as Wakanda thrived, the world around it descended further into chaos. To keep vibranium safe, the Wakandans vowed to hide in plain sight, keeping the truth of their power from the outside world.
And we still hide, Baba?
Yes.
Why?
You in the van, come in through from the west, come around the corner, land right here. Mm-hmm. Me and the twins pulling up right here. We're leaving this car behind, okay? We're coming. Hide the straps.
Yeah. Is it the feds?
No.
These two Grace Jones looking chicks. They own Spears.
Open it.
You serious?
They won't knock again.
Ungabani.
Prince Njobu, son of Azuri.
Zimona Kali sekum ukupa unguye, lomtu oti unguye.
Kumkani.
Leave us.
This is James. I trust him with my life. He stays. With your permission, King T'Chaka.
As you wish. At ease.
Sondela Mdagama, let me see how you are holding up. You look strong.
Glory to Basta, I'm in good health. How is home?
Not so good, Ndagwetu. There has been an attack. This man, Ulysses Claw, stole a quarter ton of vibranium from us and triggered a bomb at the border to escape. Many lives were lost. He knew where we hid the vibranium and how to strike. He had someone on the inside.
Why are you here?
Because I want you to look me in the eyes and tell me why you betrayed Wakanda.
I did no such thing.
Zichaza umxelele bangubani.
Zuri, son of Badu.
What? James. James, you lied to me.
Leave him.
You were Wakandan this whole time.
You betrayed Wakanda.
How could you lie to me like...
Down. Did you think that you were the only spy we sent here? Prince Njobu. You will return home at once, where you will face the council and inform them of your crimes.
Jacob! Got me, got me! Go!
Voilà, donc la séquence introductive qui est le prologue de, du film Black Panther qui précède le générique Marvel donc qui s'enclenche à la fin de cette séquence. Donc cette séquence introductive, elle est clairement divisée en deux parties. Hein. La première est un long plan séquence filmé exclusivement et ostensiblement en animation numérique qui se présente comme un récit, story, de la jeunesse du Wakanda. La seconde, composée essentiellement d'éléments pro-filmiques, est explicitement située dans le temps et l'espace et relate la confrontation donc, entre le roi T'Chaka et son frère Njobu, qui a trahi le Wakanda. On va d'abord se pencher sur la première partie de la séquence et voir un petit peu ses implications dans le film, dans le reste du film, et ensuite on se penchera sur la seconde partie. Donc, la première partie de la séquence... Voilà. Première partie de la séquence mobilise le dispositif narratif du conte, avec une voix off d'enfant qui est celle d'un jeune Killmonger réclamant une histoire à son père sur un plan de ciel étoilé, qui évoque donc le mode de la bedtime story, autant qu'une amplitude de récit pointant vers la Genèse ou la création. Un tel dispositif du conte induit la présence dans le récit de ce que Benjamin appelle la trace du conteur, c'est-à-dire la subjectivité du narrateur que l'acteur imprime ici dans ses inflexions de voix. Subjective, la voix conteuse est aussi investie d'un pouvoir absolu sur la narration, la mise en image du récit étant subordonnée à sa parole, la mention de la météorite fait apparaître la météorite, etc. Ce pouvoir absolu de mise en image est reflété au niveau métafilmique par les pouvoirs génétiques infinis de l'animation numérique choisie pour représenter ce récit. La séquence construit donc un pont entre filmique et métafilmique. Le pouvoir de génération d'image du narrateur est reflété dans le pouvoir de génération d'image de la technologie utilisée. Pont entre filmique et métafilmique qui invite à considérer le narrateur comme un double de l'instance créatrice du film, réalisateur, producteur, etc. Tandis que la spectatrice en attente du récit qui démarre devient la destinataire du conte pour enfants et de son ton infantilisant. Par ses choix de dispositifs et de mise en image, ce prologue exhibe donc à la fois le pouvoir de génération d'images du numérique et la subjectivité créatrice qui préside à la narration. D'emblée, on est dans un régime de représentation qui exerce moins son pouvoir sur la spectatrice qu'il ne cherche à le manifester. La demande de l'enfant portant sur « The Story of Home », Home étant ici le pays Wakanda, la séquence se place sur le terrain d'un récit des origines collectives, c'est-à-dire sur le terrain du mythe. C'est un mythe qui plus est, qui s'inscrit explicitement dans le merveilleux, avec la présence de la magie, du surnaturel, plutôt que dans un rapport fonctionnel à l'histoire. Le conte ici, pour reprendre encore Benjamin, gagne une amplitude qui fait défaut à l'information. Du point de vue des genres filmiques, la séquence se positionne en effet sur différents terrains, fantastique, fantasy, science-fiction, qui entretiennent tous, à des degrés divers, un rapport relativement lâche au réel. Cette distance est exacerbée par le choix d'une animation numérique dont le faible degré de réalisme perceptuel, pour reprendre l'expression de Stephen Prince, inscrit ostensiblement la séquence du côté de l'artifice. L'image matricielle du Wakanda est donc celle d'un mythe merveilleux, d'une fiction visuelle qui se donne à voir comme fiction. La séquence étant un récit clos des origines du Wakanda, elle ne donne pas lieu à des retours ou des reprises dans la suite du récit. Elle imprime cependant deux marques sur l'ensemble du film. Premièrement, le thème du Wakanda comme un pays de contes de fées. Et deuxièmement, l'esthétique texturale sableuse ainsi que les couleurs bleues et violettes émises par le vibranium. Alors, concernant l'association du Wakanda à un conte de fées, une des stratégies du film est de démentir cette association pour affirmer au contraire la réalité du pays merveilleux. Cette stratégie est portée par le personnage de l'agent blanc de la CIA, Everett Ross, qui est initialement incrédule de désignant le Wakanda, désignant le récit du Wakanda comme une superpuissance par le terme de conte de fées. Mais il est finalement émerveillé devant la réalité d'une technologie hyper avancée qu'il prend pour de la magie. Donc ça, c'est une stratégie du film, de démentir ce côté fictionnel, conte de fées du Wakanda. Cependant, la représentation d'un Wakanda chimérique est maintenue en conclusion du film, lorsqu'un Killmonger mortellement blessé intime que le conte de fées du Wakanda ne s'est pas réalisé pour lui. Donc on va regarder ensemble cette séquence qui dure 3 minutes et ensuite je vais l'analyser.
My pop said Wakanda was the most beautiful thing you ever seen. He promised he was gonna show it to me one day. You believe that? Kid from Oakland running around believing in fairy tales. He's beautiful.
Maybe we can still heal you.
Why? So you can just lock me up? No. Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships. Because they knew death was better than bondage.
Voilà, donc dans cette séquence, Killmonger nie la possibilité que le conte de fées du Wakanda ne se réalise pour lui. Et la narration, plutôt que de le démentir et donc d'affirmer que le Wakanda existe bel et bien quelque part, confirme au contraire l'artifice. L'ascension hors de la mine de vibranium révèle un coucher de soleil wakandais que le père de Killmonger avait présenté comme « the most beautiful thing in the world ». Et auquel Killmonger répond en confirmant cette beauté. La réplique « It's beautiful » invite cependant à évaluer les qualités esthétiques du paysage qui se manifeste ici comme une composition numérique. La composition de l'image en deux plans, avant et arrière, strictement séparés, évoque le dispositif technique classique du matte painting analogique, un effet spécial parfois décrié pour précisément découper l'image en deux plans, avec un premier plan profilmique et un second plan peint sur verre. Deux plans donc qui auraient du coup aucune relation, sans relation l'un avec l'autre. Ici, la mise à distance de l'objet du regard, le paysage, est encore soulignée par le dispositif de surcadrage, hein, puisqu'on voit l'entrée de la mine de part et d'autre du cadre. Alors certes, le fait que le premier plan de l'image soit également numérique vient nuancer l'effet de séparation de l'image en deux plans, réel et virtuel, puisqu'il y a homogénéité ici dans le degré de photoréalisme. Cependant, cette homogénéité fait basculer le plan entier du côté de l'artifice, dont la qualité numérique est encore soulignée par le fondu enchaîné final vers des plans profilmiques du Wakanda, au grain radicalement différent. Et on voit ici d'ailleurs que les usages du numérique ont aussi des implications sur la politique des représentations, puisque l'image la plus photoréaliste du Wakanda est aussi l'image stéréotypique de l'Afrique pauvre et agraire dans l'imaginaire néocolonial. Le lien visuel avec le conte introductif est manifesté dans la présence de la couleur bleue luminescente du vibranium éclairant l'entrée de la mine en arrière-plan des personnages. Cette luminescence du vibranium renvoie évidemment à d'autres substances sources de pouvoir surnaturel dans l'univers Marvel. Hein, pour celles et ceux qui connaissent, on peut penser au Tesseract, aux pierres d'infinité. Mais elle compose également un motif visuel interne au film, dont la matrice est l'animation numérique introductive. Dès lors, chacune des manifestations d'une technologie wakandaise supérieure, censée inscrire le film dans les genres plus naturalistes de la science-fiction ou du film d'espionnage, que ce soit donc les animations sableuses ou le bleu-violet luminescent, sont aussi visuellement reliées au merveilleux artificiel de l'introduction. Le moment de résolution narrative, signifié par la mort de Killmonger, est souligné dans la musique de Foss par un accord final en mode majeur, est ainsi au moins partiellement déréalisé par la narration qui maintient le Wakanda sur le plan du mythe et d'une fiction qui se donne comme fiction. Un plan qui est en complète rupture avec le régime esthétique photoréaliste et les problématiques politiques urgemment réelles associées à Killmonger. J'en arrive donc à ma dernière partie qui sera sur donc le développement de la deuxième partie de la séquence introductive qu'on a regardée précédemment sur la réalité du ghetto états-unien. Car en effet, si un tel usage de l'imagerie numérique contribue à exhiber l'artificialité du paradis africain fictionnel qu'est le Wakanda, la séquence introductive suggère une seconde trajectoire narrative explicitement ancrée dans l'esthétique photoréaliste du film de banlieue et du thriller urbain et dans une histoire bien réelle d'oppression raciale. La situation narrative à Oakland en 92 est une déviation par rapport à la source en bande dessinée qui situe les événements à Harlem, à New York. Le choix d'Oakland, lieu de naissance du Black Panther Party en octobre 66, trois mois après la création du personnage de Black Panther par Marvel, établit un lien historiquement non avéré entre l'univers fictionnel du héros et l'origine historique du Parti nationaliste noir, ce qui rapproche ici la fiction d'un référent réel. Oakland est également la ville d'origine du réalisateur Ryan Coogler et le décor de son premier film, Fruitvale Station, un film qui se concentre sur le dernier jour de la vie d'Oscar Grant, incarné dans le film par Michael B. Jordan, le même acteur donc que Killmonger. Oscar Grant qui est donc un homme noir qui a été abattu par la police à la station de métro Fruitvale à Oakland en 2009. Ce choix de localisation pour Black Panther à Oakland rapproche donc la séquence d'une histoire de résistance à l'oppression raciale, les Black Panthers, et d'un usage politique protestataire de la fiction cinématographique. La date de 92 contribue encore à ancrer cette séquence dans un référent réaliste, comme on le comprend dès les premiers plans de l'appartement de N'Jobu, montrant des corps noirs régulés par la police sur un écran de télévision. Que le scénario entend être des plans d'archives des émeutes raciales de 1992 à Los Angeles. Les activités apparemment criminelles des deux hommes noirs sont ainsi d'emblée investies d'une coloration politique, renforcée par la présence d'une bibliothèque fournie, qui suggère une rationalité intellectuelle derrière l'usage de la violence, et d'un poster de l'album Fear of a Black Planet du groupe engagé Public Enemy, sorti en 1988. Le commentaire de cette scène par le réalisateur dans le DVD, sorti en mai 2018, ajoute ici du sens à la séquence. Donc, selon le réalisateur, N'Jobu se préparerait ici à faire évader sa femme de prison, puisqu'il est donc en liaison avec une femme américaine, faire évader sa femme de prison, une évasion qui n'aura donc pas lieu. Si la séquence de genèse du Wakanda est un récit clos, cette séquence-ci, à Oakland ne clarifie pas immédiatement sa relation narrative au reste du film. Une telle ouverture en fait un objet d'exégèse que la narration va revenir interroger à deux reprises, instituant Oakland en 1992 comme le principe, au sens de cause première et structurante, du récit. Le premier réinvestissement de la scène prend la forme d'une réécriture lorsque la narration révèle des plans que la scène introductive avait coupés. Et donc, ça va être la dernière séquence que je vous propose, qui dure 2 minutes 30, celle-ci, où on va revoir des éléments de la séquence introductive.
Your uncle took a war dog assignment in America. Your father placed me there to observe. Unbeknownst to him, your uncle fell in love with
an American woman. They had a child. The hardships he saw there radicalized your uncle.
I observed for as long as I could. The leaders have been assassinated,
communities flooded with drugs and weapons. They are overly policed and incarcerated. All over the planet, our people suffer because they don't have the tools to fight back. With vibranium weapons, they could overthrow every country and Wakanda could rule them all the right way.
You knew your father would not support this. So your uncle betrayed us.
No.
He helped Claw steal the vibranium.
No.
He will return home at once, where you will face the council and inform them of your crimes.
He drew his weapon on me. Your father killed his own brother to save my life.
Speak nothing of this.
The child.
We left him. We had to maintain the lie.
Donc cette séquence intervient exactement à la moitié du film et constitue donc en constitue le moment charnière. On y apprend donc dans ces plans qui supplémentent la scène introductive les raisons de la trahison de Njobu qui sont donc éminemment politiques. On y voit également que T'Chaka a tué son propre frère, caché le meurtre et abandonné son neveu, qui n'est autre donc que Killmonger, condamné à grandir orphelin dans le ghetto. La deuxième partie du prologue introductif se révèle donc finalement être également un récit des origines, celle de Killmonger, mais c'est un récit ancré donc dans une réalité historique d'oppression raciale. Cette réécriture de la séquence introductive reproduit le geste révisionniste emprunté par l'histoire coloniale depuis les années 80, qui revient sur l'écriture dominante de l'histoire pour en rendre compte depuis la perspective des dominés et réintroduire dans le récit ce qui en a été coupé. Le dispositif de réinvestissement narratif du prologue joue alors dans le sens de la révélation d'un traumatisme et d'une violence historique fondatrice qui sert l'empathie pour le personnage antagoniste et assombrit considérablement le portrait du Wakanda. Le binarisme moral établi dans le prologue entre une innocence infantile et une trahison violente s'effondre ainsi à mesure que le récit progresse. Ce dispositif de réinvestissement a également un second effet que le film n'exploite pas plus avant, mais qui contribue néanmoins à un certain degré de réflexivité ici. Cette réécriture du prologue manifeste le pouvoir de fabrication du récit et de manipulation des images par l'opération de montage, exhibée ici dans son pouvoir d'élision. Les images ajoutées, telles des rushs initialement écartées au montage, n'interviennent pas seulement après la succession d'événements représentés au début du film, comme une expansion de la scène existante, mais reconfigure cette succession des événements, révélant une opération de falsification. Ce qu'on a vu au départ n'était pas la version complète, en quelque sorte, de ce qui s'est passé. Et donc, comme dans le prologue numérique du Wakanda, la narration indique ici à la spectatrice sa puissance de manipulation. La réécriture de la séquence introductive en un récit des origines de Killmonger vient confirmer ce que la narration avait déjà suggéré jusque-là en associant systématiquement le personnage à l'esthétique photoréaliste et au cadre générique posé dans le prologue d'Auckland. Killmonger apparaît pour la première fois à Londres dans le fictif Museum of Great Britain, un lieu introduit par deux plans relativement fixes, aux couleurs désaturées, sur une bande-son diégétique de klaxons et autres bruits urbains. En complet contraste avec l'introduction triomphale du Wakanda dans la séquence immédiatement précédente, où un plan séquence pénétrant célébrait la capitale Golden City à grand renfort d'animation 3D et au son vibrant du thème musical du Wakanda. On retrouve ici donc l'opposition générique installée dans la séquence introductive entre science-fiction et merveilleux d'une part et thriller urbain et film de banlieue de l'autre. Le film de banlieue étant ici présent dans l'accent de Killmonger, qui est un accent très street, très gangsta, avec les rapports, on a cette opposition entre deux régimes génériques en quelque sorte, hein, science-fiction, merveilleux, thriller urbain, film de banlieue, et donc avec les rapports très différents au naturalisme que ces genres supposent. La distinction se poursuit également dans les modes opératoires de T'Challa et de Killmonger. Alors que dans sa première scène d'action, T'Challa combat dans son costume numérique de la Panthère Noire, aidé d'animations sableuses et de gadgets au vibranium luminescent, Killmonger, lui, mobilise les compétences militaires d'élite et les effets visuels plus naturalistes, pyrotechnie, armes à feu, du film de guerre ou de contre-espionnage. L'articulation entre des genres filmiques au degré de naturalisme globalement très différent dans la caractérisation des personnages permet donc de filer et de creuser la distinction introductive entre deux modes de fiction réalistes et merveilleuses. L'appartement d'Oakland, lieu de naissance de Killmonger, est réinvesti une troisième fois dans le récit, cette fois-ci dans une vision rituelle du plan des ancêtres, qui est un lieu surnaturel que les princes du Wakanda visitent avant de devenir rois. Le plan des ancêtres avait déjà été représenté lors de l'intronisation de T'Challa, où il prenait la forme d'une savane africaine aux couleurs numériques dominées par le merveilleux, hein, notamment avec une panthère qui se transmute en T'Chaka, le père de T'Challa. Pour Killmonger, cependant, le plan des ancêtres ne se manifeste pas comme une savane onirique, mais sous les traits donc, de l'appartement d'Oakland, où un Eric, alternativement adulte et enfant, s'entretient avec son père assassiné à propos de leur exclusion commune du paradis du Wakanda. La violence du ghetto états-unien est encore soulignée dans cette scène de manière intime et bouleversante, lorsque son père s'étonne que le jeune Eric ne verse pas de larmes, « no tears for me », et donc Eric, ici, sous sa forme d'enfant, répond résigné, « everybody dies, it's just life around here ». Je n'ai pas le temps de vous montrer la scène, mais c'est une scène qui est très poignante, qui contribue donc à accentuer encore l'empathie pour le personnage de Killmonger. C'est une scène qui intervient juste après la défaite de T'Challa par Killmonger en combat rituel et donc qui mobilise l'empathie pour le personnage au moment même où son pouvoir devient le plus menaçant, complexifiant ici la condamnation morale de l'ennemi. J'en arrive à ma conclusion. Alors donc que la narration maintient une distinction entre un Wakanda féerique et la réalité historique de l'oppression raciale, l'opposition morale claire entre innocence et culpabilité, entre le bien et le mal, est brouillée par le récit. Le Wakanda idéal est souillé par un acte de mensonge et de corruption. Sa violence historique est ce qui a produit la menace que T'Challa doit combattre dans le présent. Et T'Challa rachète cette faute originelle en créant des maisons de la jeunesse dans les quartiers sensibles, ce qui, au vu de la gravité des enjeux soulevés par N'Jobu et Killmonger, paraît largement insuffisant. Killmonger est quant à lui partiellement racheté par sa victimisation et l'empathie que le récit encourage à son égard, et si les fins violentes de son discours sont discréditées comme un nouvel impérialisme, les fondations politiques de son discours, elles, ne sont jamais déstabilisées et les problèmes soulevés ne sont jamais pleinement résolus. La mise en défaut de cette résolution narrative est en grande partie le fait de l'articulation des genres et des usages du numérique qui maintiennent le Wakanda dans un horizon mythique et merveilleux, radicalement distinct de la réalité historique de l'oppression raciale référencée par le ghetto, et ainsi en aucune position de pouvoir transformer cette réalité historique dans le film. Les régimes de représentation du Wakanda et d'Oakland, de T'Challa et Killmonger, construisent un écart référentiel qui sape la prétention du Wakanda à endosser un rôle émancipateur. Ainsi donc, les tensions entre la complexification du récit et la binarité relativement stable de la narration travaillent contre la résolution narrative et engagent les spectatrices à se confronter à ce qui, dans cette conclusion, résiste à conclure. Le reliquat indigne et inacceptable de l'oppression raciale dans le monde réel contemporain. Ce reste, qui est aussi le cœur du problème, laisse ouverte la question politique dans le réel et encourage le débat. Voici donc le travail démocratique qu'effectue Black Panther, exemplaire d'un travail démocratique du cinéma populaire états-unien, qui respecte et mobilise la capacité critique de spectatrices citoyennes et qui, loin de servir un discours convenu à un public captif, mobilise les spectatrices sur des enjeux réels. Je terminerai en rattachant mon propos à la thématique de notre axe de recherche, faire commun. Tel que je l'ai présenté aujourd'hui, la construction du commun par le cinéma n'intervient pas dans sa manière de refléter les préoccupations et imaginaires communes de la société qui le produit, ni dans la manière qu'a le cinéma de formuler et de représenter des discours, des idéologies ou des principes qui font communauté. Le commun, faire commun, la construction du commun au cinéma ne se joue pas non plus dans la manière dont le cinéma construit l'image d'une communauté politique par sa politique des représentations. Mais plutôt, le cinéma fait commun dans sa manière de s'adresser à des citoyennes et d'encourager notre pouvoir de construire du sens commun par la réflexion critique et le débat contradictoire, et ainsi notre pouvoir de faire communauté. On voit ici comment le cinéma populaire peut engager notre pouvoir de construction du commun et d'un collectif politique, plutôt que de se contenter de manière autoritaire de donner un sens à ce collectif que nous n'aurions d'autre choix que d'accepter. C'est dans ce travail démocratique, par le biais des spectatrices émancipées, que le cinéma s'engage directement et politiquement avec le réel. Merci à toutes et à tous pour votre attention.